La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin, la technique, Vinciane Colson, micro. Le dialogue interconvictionnel, qu'est-ce que c'est? Quel est son intérêt? Comment le mettre en place? Et la laïcité a-t-elle sa place dans ce dialogue? Voici quelques-unes des questions que nous allons nous poser ce soir. Le 17 mai dernier, le Premier ministre Charles Michel et le ministre de la Justice Koen Gaens ont co-signé un protocole d'accord avec les représentants des cultes reconnus et de la laïcité. Objectif, encourager et instituer le dialogue entre l'autorité fédérale et les différents cultes et philosophies. Les représentants des églises catholiques, anglicanes, protestantes, orthodoxes, ainsi que les représentants de l'islam, du judaïsme et de la laïcité, se réuniront ainsi avec le Premier ministre tous les 6 mois pour évoquer donc des sujets liés au vivre ensemble. Quels sont les enjeux derrière ce type de dialogue et quelle forme prend aussi ce dialogue sur le terrain, au niveau local? Nous allons en discuter ce soir avec nos deux invités. Tout d'abord Jean-François Husson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes coordinateur de l'Oracle, l'Observatoire des relations administratives entre les cultes, la laïcité organisée et l'État. Et à vos côtés, Aude Minet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la Maison de la laïcité de Namur. Et donc vous, sur le terrain, vous avez mis en place plusieurs initiatives pour que les Namurois de toute conviction, de toute philosophie, dialoguent et apprennent surtout à se connaître. Vous nous en parlerez dans un instant. Alors tout d'abord, Jean-François Husson, quand on parle de dialogue interconvictionnel, qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
En fait, ça peut signifier des choses très très différentes. Ça peut être un dialogue plutôt institutionnel, ce que les sociologues appellent le dialogue des élites. Le grand rabbin qui discute avec l'évêque et le président du CAL, par exemple. Donc, ça reste un débat au niveau des grands responsables. À côté de ça, il peut y avoir des initiatives locales, des initiatives de terrain. Dans un cas comme dans l'autre, les pouvoirs publics peuvent être demandeurs, peuvent être associés ou peuvent au contraire s'abstenir tout à fait. Donc c'est vraiment très très variable. Maintenant, quant au sujet abordé, là aussi ça peut être très différent. On peut dans certains cas être dans ce que l'on appellerait une négociation valorielle, en termes de valeurs de société, en termes de valeurs communes. Pensons par exemple à une série de communiqués il y a quelques années de l'ensemble des communautés convictionnelles concernant les réfugiés. Dans d'autres cas, ça peut être davantage ce qu'on appellerait une négociation des intérêts, un petit peu un lobbying. Pensons par exemple au début des années 2000 quand l'ensemble des cultes et à l'époque le CAL s'était prononcé pour le maintien des cours philosophiques. Donc ce sont vraiment des choses très très différentes. Et pour revenir au rôle des pouvoirs publics, force est de constater que dans le discours politique, on entend souvent parler du vivre ensemble, mais qu'il n'y a pas d'instrument politique qui favorise ce vivre ensemble, qui met en place les structures permettant de développer des initiatives en ce sens. Il n'y a pas d'incitant financier, sauf parfois un petit subside, etc., mais qui est tout à fait marginal par rapport aux grosses enveloppes du financement des cultes. En Flandre, ils ont initié une première plateforme il y a quelques années, on pourrait quasiment dire in tempore non suspecto, même s'il y a quand même certaines tensions qui émergeaient dans la société flamande, où en plus le poids de l'extrême droite est très très fort. Et au niveau fédéral, après les attentats du 22 mars, il y avait eu l'une ou l'autre réunion auxquelles maintenant il a été décidé de donner un caractère pérenne. Mais de nouveau, c'est la pression des événements, semble-t-il, qui a amené cette structuration. À titre de comparaison, et je terminerai par là, en France, République laïque, ce type de réunion, une à deux fois par an avec le Premier ministre, existe depuis pas mal d'années.
Mais quel est le sens justement de rassembler toutes ces convictions dans des moments douloureux, comme après les attentats? Et donc il y a plusieurs événements dans l'histoire, mais disons que les plus proches, effectivement, les attentats du 22 mars, par exemple, à Bruxelles, où on sent une envie de rassembler les différents cultes et philosophies. Quel est le sens finalement de ces rassemblements?
Il y a une dimension, je dirais, positive, une dimension négative. La dimension positive, c'est de faire bloc. Tous les mouvements extrémistes visent à désagréger la société et à hisser certaines de ses composantes contre d'autres. Donc ici, c'est de déjouer cette démarche terroriste, c'est faire bloc. l'union fait la force, et on revient ainsi un petit peu aux bases de l'indépendance belge, puisque cette union, c'était à l'époque entre catholiques et libéraux. La deuxième chose, que je dirais plutôt négative, dans le sens de lutter contre quelque chose, c'est lutter contre l'apparition d'antagonisme. Et donc, en montrant des responsables de différentes communautés convictionnelles qui peuvent s'entendre sur ce qui va être considéré comme essentiel, ce qui va être considéré comme fondamental, en montrant qu'il n'y a pas de raison de se taper dessus, pour parler platement, bah donc on espère que, au niveau des adhérents, des fidèles ou des gens de la rue qui vont regarder ces responsables moraux prendre de telles positions, il n'y aura pas de volonté d'agresser verbalement ou physiquement quelqu'un qui est d'une autre conviction religieuse ou philosophique que l'on va croiser dans la rue.
Alors, on l'a dit en introduction, donc le 17 mai dernier, il y a une forme d'institutionnalisation quand même de ce dialogue interconvictionnel qui a été mis en place. Il y a plusieurs éléments dans le protocole d'accord qui a été signé. Alors, on va y revenir dans un instant, mais avant, je vous propose d'entendre la réaction du président du Centre d'Action Laïque, Henri Bartholomé-Hyssen. Sur le dialogue interconfictionnel, on sait que le Centre d'Action Laïque n'est pas toujours nécessairement favorable à ce dialogue interconvictionnel. On va entendre la position donc du président là-dessus.
Chacun effectivement a sa conviction, mais le fait de pouvoir coexister ensemble en s'acceptant et dans des moments effectivement de deuil national ou dans des moments de crise, eh bien, je pense qu'il est important que, en tout cas pour les laïcs, on puisse répondre à un appel du politique. Généralement, c'est un appel du politique. On n'est pas tellement favorable, je dirais, au dialogue interconvictionnel parce que je pense que la laïcité en tant que telle ne défend pas une conception plutôt qu'une autre. Elle est surtout soucieuse de la coexistence des possibilités de s'exprimer. Ça, c'est le fondement, c'est cela, c'est permettre à chacun, au fond, de vivre sa propre conviction, sa propre idéologie, sa propre théologie, éventuellement, et de le faire dans le respect mutuel. Une fois que ces conditions-là sont acquises, on est déjà dans la laïcité, me semble-t-il. Il ne faut pas voir autre chose dans la laïcité que cela. C'est le respect des religions, la liberté religieuse, c'est important, c'est au centre du débat. Ce qui implique, il y a une seule condition à ça, c'est qu'on accepte de ne pas être, comment dirais-je, heurter ou ne pas exiger en tout cas que sa foi soit respectée en termes de sacré. La religion doit pouvoir être débattue comme n'importe quelle autre chose. La vérité de l'un n'est pas celle de l'autre. Il n'y a pas d'objection majeure à la liberté d'expression.
Alors, une réaction peut-être l'un et l'autre par rapport à ce qui vient d'être dit. Aude Minet, peut-être
Oui, je comprends bien qu'il y ait nécessité, et je partage tout à fait l'avis de M. Bartholomé-Hyssen, de répondre à un appel quand il y a une situation d'urgence. Et nous sommes en situation d'urgence. On le restera sans doute un petit temps. Maintenant, je pense que la laïcité, c'est celle qui va, du moins c'est l'optique que nous avons prise à Namur, c'est justement celle qui va pouvoir établir un lien entre tout le monde. Et qu'en ça, elle peut jouer un simple rôle de reliant. En s'arrêtant là, quand on a initié notre dialogue interconvictionnel à Namur, il n'a pas été question de débattre de théologie. Par contre, il a été question, et comme Jean-François l'a souligné, ou comme le président du CAL peut le souligner aussi, il y a importance de faire passer un message, comme quoi on peut coexister. Ça, je pense que c'est la vision que les acteurs de terrain peuvent traduire en actes. Parce qu'il faut des actes derrière des mots.
Oui, c'est vrai que... Alors peut-être juste une réaction aussi là-dessus de Jean-François Husson, et puis après je reviendrai vers vous, Aude Minet.
Oui, donc je rejoins tout à fait ce qu'Aude vient de dire. Quand le président du CAL évoque la réponse à l'appel du politique, c'est vrai que cet appel du politique, c'est tout à fait neuf. On n'a pas eu ça dans le passé, sauf quelques expériences. J'ai parlé de la Flandre. Dans le passé, il y a eu l'essai de Bruxelles-Espérance, hein, avec le ministre Chabert qui avait lancé ça, mais qui a terminé un petit peu en eau de boudin. Ça ne s'est pas fortement développé. À la ville de Bruxelles, il y a eu une expérience de plateforme interconvictionnelle lancée par Chantal Noël, mais une fois qu'elle a quitté les affaires à la ville, c'est reparti dans une dimension purement associative. Donc du côté du politique, le politique était souvent absent et ne pouvait pas s'inscrire dans la durée. Mais par contre, les religions avaient précédemment mis en place le Council of Belgian Religious Leaders avec les responsables des principaux cultes, mais aussi des bouddhistes et les hindouistes pour entamer une série de discussions, mais qui restaient assez globales. Tandis que là, on le disait vraiment, c'est comment faire corps au niveau de la société dans le respect de chacun et cette importance de coexister, cette perception de l'altérité et donc dans un deuxième temps se connaître. Mais se connaître, ça ne va pas découler du dialogue des élites dont je parlais tantôt. C'est là que, à côté de ça, il est absolument indispensable d'avoir des expériences de terrain, comme le disait Aude.
Oui, mais justement, ces expériences de terrain, Aude Minet, vous en avez mené plusieurs. La plus récente, c'est cette quinzaine de la citoyenneté et de l'interculturalité qui a été mise en place il y a quelques mois. Alors, déjà, qu'est-ce que c'était, par exemple, cette quinzaine de la citoyenneté et de l'interculturalité? Pourquoi l'avoir mise en place? Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à mettre ce dialogue interconvictionnel en place à Namur?
Alors, il y a deux choses. Il y a le dialogue interconvictionnel d'une part et l'interculturalité d'autre part. Par moment, ces deux entités s'interpénètrent, allons-nous dire. Mais la quinzaine de la citoyenneté et l'interculturalité voulait laisser une petite place à la conviction religieuse ou philosophique, et mais pas qu'elle envahisse tous les 15 jours. Donc, en fait, cette quinzaine, elle nous a permis d'ouvrir les portes des différents lieux. Donc, c'est-à-dire que nous avons eu des orateurs qui, pour moi, étaient tous des hommes de bonne volonté. Maintenant, quelle description mettons là autour? Je pense que ce sont tous des hommes qui travaillent au quotidien, dans leurs discours, dans leurs actions, pour que leur conviction soit davantage comprise par les gens de leur conviction comme par les personnes extérieures. Donc, par exemple, nous avons reçu Rachid Benzine, qui a dialogué avec Édouard Delruel.
Oui, donc Rachid Benzine, islamologue, voilà. Auteur de pièces de théâtre, notamment, par exemple, Lettre à Nour, que vous avez peut-être vu, donc, qui est très interpellant, d'ailleurs.
Donc, nous avions un islamologue musulman et un philosophe laïque qui ont discuté sur un même plateau, que je suspecte d'être amis. Donc, symboliquement, c'est quelque chose de fort. C'est dire, voilà, on peut avoir des convictions différentes, voire totalement différentes, mais il y a un cadre. Et le cadre de nos discussions, c'est celui qu'on ne franchira jamais, c'est celui du non-respect de l'humain. Chose que certains ont franchie, pas parmi les démocrates, mais et chose que ces certains-là voudraient que les démocrates franchissent. Et donc le message, en les mettant tous les deux sur une scène et en leur disant « Allez-y, discutez, enrichissez-nous », c'est de dire « Faites passer aussi que nos oppositions sont quelque chose d'intéressant et qu'elles nous permettent de fonctionner malgré tout, malgré ce qu'on peut penser ensemble aussi ». Et donc c'est pouvoir démontrer vraiment que l'altérité, le pluriel et la complexité, ça fait partie de la réalité et que c'est une approche intéressante que à un moment donné s'y pencher plutôt que de vouloir se reposer sur des certitudes.
Alors, il y a déjà quelques années, en 2012, le Centre d'Action Laïque avait dit qu'il ne souhaitait pas répondre aux sollicitations de participation des plateformes interconvictionnelles parce que, je cite, ce type de regroupement avait pour conséquence de marginaliser la laïcité, de la réduire à une croyance, à une religion, à un culte de plus, alors que lequel veut prioritairement assurer la défense et la promotion de la laïcité au service de l'ensemble des citoyens. Alors, concrètement, comment, dans ce type d'initiative que vous avez menée à Namur, comment faire pour éviter justement que la laïcité ne soit marginalisée et qu'elle n'apparaisse comme finalement une croyance de plus ou un culte de plus?
Alors, ça c'est une question qui arrive souvent. Et en fait, à Namur, on n'a même pas eu besoin de faire quelque chose pour dire que nous n'étions pas un culte. Je vais vous dire, le soir où on s'est rassemblés avec les différents représentants des cultes, donc on était le 16 novembre, il y a un représentant important qui nous a dit « Merci, vous étiez les seuls à pouvoir organiser ce rassemblement ». Que veut dire cette phrase ? « Vous étiez les seuls ». Ça veut dire que là-dedans, dans ce groupe, il y avait un « eux » et un « nous » qui, pour une fois, était intéressant. Le clivage entre les deux était bien marqué. Donc la laïcité n'est pas un culte. Et avec les gens intelligents que nous avions autour de la table, il n'en a même pas été question. Aller dire à un représentant religieux que la laïcité est un culte de plus, s'il est honnête intellectuellement, il va vous rire au nez. Il n'y a pas de dogme chez nous, il n'y a pas de foi, il n'y a pas un seul texte en lequel on pourrait croire. Il y a des milliers de textes qu'on analyse, et même quand certains disent le libre examen est une croyance en un être supérieur, finalement, des laïcs. C'est totalement faux. Le libre examen naît des hommes. Donc il n'y a pas de confusion possible. Et moi, je suis allée assez à l'aise avec ça parce que celui qui, pour moi, vient dire la laïcité, c'est un culte de plus, soit il le dit par méconnaissance, soit il le dit pour semer la discorde. Parce que, je répète, aucun représentant religieux ne va vouloir associer la laïcité à une religion.
Et vous disiez, vous étiez les seuls à pouvoir l'organiser parce que quoi, vous étiez justement plus libre que les autres, détaché de toute obligation, de toute, je sais pas, de tout dogme.
Oui, on est plus libre. Donc, je répète que ce n'est pas nous qui l'avons dit, ouais. c'est donc un représentant religieux qui l'a dit. Je pense que justement, comme nous n'avons pas de credo, on peut jouer un rôle de reliance et pas, on ne cherche pas, du moins. Chez les hommes de bonne volonté, de nouveau, je vais réutiliser ce terme, on ne cherche pas à imposer la laïcité, du moins la philosophique, comme un principe supérieur. Et à partir du moment où on n'a pas de credo, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se dire que ben, le rôle d'une laïcité politique peut arriver. Et donc, on peut jouer ensuite, vous savez, ce fameux clivage entre laïcité politique et laïcité philosophique, il n'est pas si compliqué que ça. La laïcité politique est sous-tendue par une laïcité philosophique.
Jean-François Husson, est-ce qu'au niveau des thématiques qui sont discutées dans ces différentes plateformes que vous avez citées, alors qui fonctionnent ou non selon les endroits, les régions, les villes, les provinces, enfin, on voit qu'il y a plusieurs initiatives, au niveau du contenu, quels sont vraiment les thèmes qui sont abordés? Est-ce qu'il n'y a pas quand même des thèmes de type éthique, bioéthique, le droit à l'avortement par exemple, qui ne pourront jamais être vraiment discutés dans ce genre de plateforme-ci?
Il y a des choses qui, évidemment, peuvent rebuter une série de cultes reconnus, mais il n'est pas nécessaire d'aller même dans l'interconvictionnel pour aller jusque-là. Je pense que ce n'est un secret pour personne qu'au sein du monde protestant, en Belgique, entre les communautés évangéliques et l'Église protestante unie de Belgique et le courant protestant historique, il y a de grosses divergences de vues sur une série de dossiers éthiques et même déjà sur l'homosexualité. Donc, voir les religions comme un ensemble monolithique et dogmatique, je pense que c'est risqué de se tromper et il peut y avoir de très fortes divergences de vues entre ces différents courants. Alors, à côté de ça, ce que l'on voit qui découle généralement de ce type d'initiative, c'est des éléments pour se connaître, c'est mettre en place des activités, par exemple la visite de lieux de culte, des endroits où on va pouvoir échanger sur une chose ou l'autre, des actions de solidarité sur des thèmes qui ne posent pas trop de problèmes, exemple la solidarité, les réfugiés, j'en parlais tout à l'heure. C'est aussi une question de symbolique, c'est-à-dire que si on voit une délégation de l'exécutif des musulmans de Belgique à une cérémonie à la grande synagogue en hommage aux victimes, etc., ben c'est aussi un message que l'on fait passer à destination d'une certaine communauté. Parce qu'à côté de l'interconvictionnel, il y a aussi beaucoup de contacts bilatéraux qui existent. Et alors, oui, les sujets éthiques sont rarement sur la table.
Mais ce n'est pas nécessairement l'objectif. C'est un peu ça le.
Mais ce n'est pas nécessairement l'objectif. Ceci dit, force est aussi de constater qu'en Belgique, depuis quelques années, les débats sur des sujets éthiques ont pu être menés dans des conditions qui me semblent tout à fait correctes dans un pays démocratique. Il n'y a pas eu de manifestations haineuses, comme on en a vu en France avec le mariage pour tous. Il n'y a pas eu d'invectives à l'égard de responsables politiques ou autres. Chacun a affirmé ses positions et ces dernières années, les choses ont suivi leur cours. Donc c'est plus sur le vivre ensemble, je dirais, au quotidien et la perception de l'altérité plutôt que négocier sur des sujets éthiques. Mais serait-il sain que les communautés religieuses et convictionnelles discutent entre elles de ces sujets-là pour arriver à des accords?
Oui,
on peut se poser
ça,
la question,
parce que
fondamentalement, c'est le rôle du politique.
Oui. Et on pourrait dire que la laïcité serait vraiment marginalisée dans ce cas-là.
Oui, c'est pas du tout l'objectif de notre plateforme, on va dire. On sait très bien qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État. Va-t-on dire. C'est un principe de base auquel on ne dérogera jamais. On ne va jamais faire des recommandations, même au niveau de la politique locale. Si le politique a envie de s'intéresser à des choses qui se font par nous. Ils s'y intéressent, mais jamais nous n'irions dire « faites plutôt ceci que cela ».
Mais du coup, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que vous en avez retiré, je veux dire, vous, au sein de la Maison de la Laïcité, au niveau des membres qui participent à ces expériences? Qu'est-ce qu'ils en ont retiré?
Beaucoup plus de complexité et beaucoup plus d'acquisition de connaissances, finalement. C'est quand vous fréquentez uniquement un milieu, ou bien que vous avez quelques connaissances par-ci, par-là dans d'autres milieux, vous avez dans la tête beaucoup de caricatures. Ces caricatures sont en train de tomber. Je vais prendre mon exemple. Jamais, autrefois, je n'aurais pensé qu'une femme voilée viendrait à la Maison de la Laïcité pour y suivre des cours. Ça s'est produit. Et je ne m'en suis même plus rendu compte, finalement. Donc, il y a des clichés qui tombent, et ça, c'est un apport qui est quand même... intéressant, ne fût-ce que intellectuellement parlant, on a un devoir d'honnêteté intellectuelle, mais pour être honnête intellectuellement, le minimum, c'est d'apprendre à connaître. Donc ça, c'est une grande richesse de ces rencontres. Ensuite, il y a le plaisir de faire ensemble, et il y a la découverte aussi que si la laïcité, elle est plurielle, on va dire, parce que tous les laïcs ne sont pas d'accord entre eux. Il y a la même chose dans les religions. Donc quand on dit qu'un catholique est ceci, cela, 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 on se trompe. Et bêtement, on se trompe. Donc on sort peut-être un peu plus intelligent après dans un débat un soir chez des amis quand on dit « oui, mais tu sais, il y a ceci, il y a cela » et qu'on complexifie la réalité.
Et d'ailleurs, une autre initiative que vous avez menée, que vous menez d'ailleurs toujours, ce sont des ateliers philo que vous avez lancés dans, par exemple, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Belgrade, près de Namur, où là aussi, il y a une forme de dialogue interconvictionnel. Via l'atelier philo, vous allez dialoguer avec des demandeurs d'asile qui sont régulièrement, on va dire, de confession musulmane, musulmans ou même d'une autre conviction, mais rarement laïque peut-être.
Oui, là c'est un philosophe ducal du Brabant wallon qui vient animer ces ateliers-là. Alors pourquoi est-ce qu'on a finalement initié ce genre de choses? On a eu le centre de Belgrade qui s'est ouvert à Namur. Il y a eu au départ une petite polémique, mais n'a pas duré longtemps. Puis on s'est dit, finalement on pense à l'accueil matériel. Donc on fournit à manger, on fournit des vêtements, on fournit un accueil avec un sourire, on fournit des soins de santé. Mais qui s'occupe finalement d'aller à la rencontre de la pensée? Et donc là on s'est dit, là nous, c'est peut-être la chose que nous, petite maison de la laïcité, pouvons essayer et offrir et voir si elle prend. Et en fait c'est ces ateliers philo... Parce qu'ils utilisent les nouvelles pratiques philosophiques, qui est une méthode vraiment intéressante, qui part du principe que chacun est capable d'être philosophe, entre guillemets. On est d'accord qu'on n'est pas tous Kant du jour au lendemain. Mais chacun peut pratiquer un exercice de la philosophie. Et bien là, à ce moment-là, on commence à discuter de sujets avec des gens qui ont des points de vue différents, en se respectant. Parce qu'il y a des règles dans ce dialogue philosophique, dans ces nouvelles pratiques. On écoute l'autre, on respecte sa personne, on contre ses idées, mais on respecte sa personne. Et donc finalement, de là naissent beaucoup de choses intéressantes, parce qu'on peut partir, par exemple, d'une question qu'on se pose, et puis après constamment déconstruire, et puis éventuellement arriver à reconstruire une réponse, pas toujours, mais ce qui a compté, c'est le chemin qu'on a fait, et les remises en question qu'on s'est faites.
Puis ça montre aussi que l'échange, ça se fait par la parole, par la réflexion, et pas uniquement par un échange autour d'un plat de couscous. Alors, je prends ça paraît un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de dialogue, de multiculturalisme, d'interculturalité ou interconvictionnel, quand on organise comme ça autour de repas, des dialogues. Mais c'est vrai que c'est souvent focalisé sur la nourriture, c'est peut-être une démarche intéressante, mais il faut aller au-delà, quoi.
Mais ça dépend aussi comment on l'organise. Je pense par exemple à une initiative qui avait été prise à Sambreville dans le cadre de la fête du partage. Donc il y avait une dimension convivialité avec des plats d'origine italienne, turque et arabe. Mais il y avait aussi une initiative très intéressante qui était avant de passer au buffet. Les personnes arrivaient et étaient affectés à une table. Donc les couples étaient séparés et on ne pouvait pas choisir les personnes avec qui on était. Et donc, à chaque table, il y avait un facilitateur qui disait, pour vous, qu'est-ce que c'est la fête du partage, ou est-ce que dans vos convictions, il y a quelque chose d'équivalent, etc., etc. Donc les gens se connaissaient, mais en plus pouvaient échanger avec leurs mots, avec leur vécu. Donc ce n'était pas nécessairement des travaux de grands philosophes, mais en tout cas, c'était tisser du lien social, c'était surmonter certaines barrières c'était simplement nouer le dialogue et commencer à combattre une certaine ignorance, commencer à combattre certaines caricatures, certaines représentations. Et ça, ça me semble relativement important de pouvoir aussi mettre en place le cadre pour un dialogue respectueux. Or, on en a bien besoin parce que on pensait qu'Internet allait permettre à chacun d'accéder à la science, à l'échange. On voit que c'est surtout accéder au lieu commun et à l'injure. Et aussi pouvoir rappeler que, comme vous le disiez, à certains moments, et comme vous le disiez aussi tout à l'heure, il faut aussi pouvoir discuter de tout dans la société. Il y a des endroits qui sont plus adaptés pour discuter de certaines choses que d'autres, mais il faut pouvoir entendre l'autre, quitte à ne pas être d'accord, quitte à être en profond désaccord et à acter ces désaccords, mais toujours de manière respectueuse.
Oui, donc les désaccords, c'est aussi quelque chose qui est important, au minimum, dans les discussions que vous menez avec les autres convictions.
Oui, tout à fait. On s'est très clairement dit dès le premier soir, on est bien d'accord, hein, qu'on ne sera pas toujours d'accord, et loin de là. Et ça, c'est intéressant, parce que même dans nos conférences, quand il y a un débat qui s'initie, par exemple, entre Hicham Abdelgawad qui vient parler et une personne de la communauté musulmane, il y a un désaccord qui est montré devant tout le monde. Quand on vient dire « oui, les musulmans, ils n'osent pas s'exprimer, ils restent cachés, pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas dans la rue pour manifester ?» Là, il y a eu quelque chose de marquant. C'est une opposition entre deux personnes d'une même croyance, parmi, notamment, beaucoup de laïcs. Donc, du choc, il y en a, entre nous et à l'intérieur de chacun, devant les autres. Donc qu'on ne vienne pas parler de consensus mou.
Oui, parce que effectivement, c'est important de donc continuer à pratiquer le libre examen pour éviter ce risque, on va dire, de consensus mou, ce risque peut-être de montrer une parole, enfin de montrer qu'à force de trouver des points communs, on est tous d'accord et qu'il y a une forme d'angélisme peut-être.
Voilà. Donc c'est le thème de notre prochaine quinzaine, c'est entre utopie et nihilisme. Il faut pas croire qu'on va arriver à un monde de bisounours, et on en est tous bien, bien conscients. Et c'est peut-être ça qui va faire notre force à l'avenir, c'est qu'on sait très bien qu'on va s'affronter.
Mais en tout cas, c'est important aussi de bien se connaître, et c'est là qu'on voit que l'importance du dialogue entre personnes est importante. Alors, je voudrais juste revenir, on arrive à la fin de l'émission, mais je voudrais juste revenir sur un point, on parlait en introduction, donc ce fameux accord signé le 17 mai dernier entre l'autorité fédérale et les représentants des cultes et de la laïcité. Il y a, dans la déclaration qui a été faite, alors je lis des éléments de la déclaration. On dit donc, la déclaration souligne que les droits de l'homme, les libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes et la séparation des églises et de l'État sont des valeurs inaltérables. Là, c'est quand même un point assez important finalement d'avoir tous des représentants de culte et de la laïcité qui disent ensemble que ces valeurs sont inaltérables. Peut-être juste un mot là-dessus,
Jean-François
Huisson.
Il me semble que dans un État démocratique comme le nôtre, cela va de soi. Mais ça va encore beaucoup mieux en le disant. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, on reste dans le dialogue des élites. Et donc, il faut que ce type de déclaration puisse être accepté par une série de personnes dans les différentes convictions. Et dans certains cas, ce n'est pas toujours gagné.
Mmh. Et bon, ce sera peut-être avec des rencontres comme celles que
donc exactement l'intérêt d'avoir des initiations
à Namur que ça va évoluer. Alors juste une dernière information avant de nous quitter. Si ce thème du dialogue interconvictionnel vous intéresse, je vous invite à lire le dernier numéro du magazine Espace de Liberté, donc le numéro de juin qui va sortir dans quelques jours et qui a consacré son dossier au dialogue interconvictionnel. Donc Jean-François Huisson, Aude Minet, merci à tous les deux d'avoir participé
à
cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine à 20h sur La Première pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
En quête de sens
sur La Première.